Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Sur Jet FM 91.2.
L'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir.
Je m'appelle Rosa.
Je m'appelle Jeannette.
Je m'appelle Thérèse.
Je m'appelle Francis.
Je m'appelle Nicole.
Je m'appelle Josiane.
J'avais 6 ans en 1935 à Sautron.
J'avais 8 ans en 1942. Je suis née à Couéron, j'y suis toujours.
J'avais 8 ans en 1949 à Torigny-sur-Marne.
J'avais 10 ans en 1943 à Nantes.
J'avais 13 ans en 1957 à Boulogne-sur-Mer.
J'avais 19 ans en 1943 à Saint-Étienne-de-Montluc.
Bon, je suis allée à l'école à l'âge de 6 ans.
Je suis allée à l'école jusqu'en 1950. Et puis, c'était les années d'avant, quoi. Surtout les années d'après-guerre, même pendant la guerre. Moi, je me levais à 7 heures le matin. Pour le déjeuner, j'avais la soupe dans la cheminée. Je mangeais ma soupe. Et puis après, on partait à l'école vers 8 heures pour l'ouverture des classes à 9 heures. Ben oui, à pied, je sais pas, moi, j'ai à peu près... Peut-être pas 2 kilomètres, mais... Pas loin quand même. C'était moi l'aînée, la plus vieille de la bande. On emmenait des plus petits, oui. Et on n'avait pas de vélo, on n'avait rien du tout. Fallait marcher.
J'allais avec mon frère. On allait à pied, à travers les chemins qui n'étaient pas toujours bien propres, parce qu'on avait un ruisseau à dépasser. Et alors après, on arrivait sur la grande route, puis on avait bon kilomètre à faire à pied, hein, tous les matins.
Et je vous dis, quand il gelait en plein hiver, moi j'allais toujours à l'école parce que ma mère, il n'y avait personne chez moi pour me garder. Combien de fois on tombait tout le long de la route, oh là là. Et quand on était, quand il pleuvait, oh là là, on était trempés. On mettait nos affaires à sécher le long du poêle, c'était, oh là là. Madame, c'était vraiment la vie dure, on verra présent. Hein.
Après, on arrivait à l'école. Quoi. On était séparés parce que les gars et les filles n'étaient pas ensemble. Et de toute façon, on ne sortait jamais ensemble non plus le soir. On devait sortir, nous, un quart d'heure avant les gars, pour pas qu'on se trouve ensemble. C'était une école de bonnes sœurs, hein. De toute façon, c'était que ça. À Sautron, il y avait une école laïque. Il n'y avait que deux filles à l'école, c'est tout.
Et en arrivant, il faisait très froid, souvent. C'était pas des froids comme à présent, quoi. On rentrait dans la classe pour allumer le poêle au fond de la classe. Les filles qui étaient punies, c'était souvent les privilégiées parce qu'elles étaient près du feu. Et puis, il fallait toujours entretenir le poêle, quoi, comme on pouvait, quoi. Oh tout le monde avait une blouse, dans le temps c'était ça. Hein. La blouse cachait tout, parce que moi je me rappelle très bien que j'avais des vêtements dessous. C'était propre, hein. Là, pour être propre ça, mais c'était raccommodé dans tous les sens. Hein. Oui, moi j'avais la chance d'avoir une belle blouse. Hein. Tant et si bien que je me rappelle un coup, on avait l'encrier devant nous, vous savez. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore toujours une bêtise. La poignée de mon cartable s'était prise dans l'encrier. J'ai fait renverser le cahier sur moi. Oh, une blouse, mais toute neuve, ma blouse. Moi, je me rappelle, j'écrivais très mal. On faisait la guerre. Parce qu'il fallait faire le plein et le délié, si vous vous rappelez. Moi, j'étais très... Puis j'avais tendance à écrire tout petit. Alors, bon, bah, les lignes... Mais je connais des personnes qui écrivaient bien. Bah, c'était quand même beau, le plein et le délié. Hein. Quand les personnes écrivaient bien. Puis après, ben, le poêle allumé, on rentrait dans la classe. Et puis c'était le début, on commençait par une prière, toujours.
Il y avait trois divisions, première, deuxième et troisième. Alors bon, ben, elle s'occupait, la maîtresse, pour la première. Les autres regardaient un peu leurs livres. Et puis la troisième, et c'était à chacun son tour. Quoi.
Pour la morale, elle a écrit au tableau. Après, ben, c'était la récitation des leçons. Après les récitations des leçons, bah, c'était la dictée, l'orthographe. Puis, bon, bah, ça arrivait 10 heures. Alors là, c'était la récréation. Bon, après, c'était le calcul de 10h30 environ jusqu'à midi. Et ensuite, on allait déjeuner. Alors, le déjeuner, pour certaines, c'était vraiment du rustique. Hein. L'hiver, on avait le droit à la soupe chaude. Et puis du pain avec une pomme ou un œuf dur, souvent. C'était notre repas. On mangeait à l'abri quand même, l'hiver. Mais l'été, on mangeait sous le préau. On n'avait pas de soupe. Hein. La soupe était que l'hiver. Alors, il fallait manger. Alors là, c'était le silence. Hein. C'était vraiment moniacal, comme on pourrait dire. Hein. C'était comme chez les bonnes sœurs. Hein. C'était tout le monde autour de la table et puis pas un mot.
On n'avait même pas l'idée de répondre. Ah, moi, je faisais pas de bêtises, parce que je craignais beaucoup. Oh, j'étais assez sévère. Hein. Et alors là, madame, on revenait, quoi. Mon frère me prenait à l'école, j'attendais dans la cour qu'il me prenait. Et retour à pied, quoi. Ah, ben, j'étais avec des sabots. Mais l'hiver, des fois, c'était juste. Hein. On revenait avec les pieds mouillés. C'était dur parce qu'on arrivait souvent à la maison, il faisait noir et pas chaud. Et après, je pense qu'à 8 ans, je dois... Avec mon frère, on a eu des vélos. On allait en vélo. On faisait le tour, alors ça faisait... Oh, ça faisait même plus long qu'à travers les chemins.
3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers.
Bon, ben, en arrivant... Quand on arrivait à l'école, il fallait enlever la blouse pour pas qu'elle salissait, parce qu'il fallait qu'elle fasse la semaine. Ma mère le lavait le samedi, puis il fallait qu'elle était sec pour lundi matin. Hein.
La lessive à la maison, ça se faisait une fois par semaine. Je pense que ça s'échelonnait sur plusieurs jours, parce qu'il fallait faire d'abord une lessiveuse avec du produit. Je ne me rappelle pas qu'elle mettait du savon, elle mettait quelque chose dedans, et elle faisait bouillir le linge. Et ça bouillait un certain temps au-dessus de la grande cuisinière. La lessiveuse, c'était une grande bassine, très haute. Moi, j'ai le souvenir de ça, ça me dépassait dans ma cuisine. On ne pouvait pas attraper le haut de la lessiveuse, vous voyez. Alors j'avais quand même 6-7 ans, les souvenirs que j'ai, quoi, 5-6 ans peut-être. Et c'était très lourd. D'ailleurs, maman, je crois qu'elle, il me semble qu'elle allait chercher la voisine pour la monter sur le gaz, enfin, sur le feu, parce qu'elle ne pouvait pas la porter toute seule. C'était pas possible, parce qu'elle la portait avec de l'eau. C'était une drôle de façon de faire, mais c'était comme ça. Oui, la lessive qu'on faisait sur le feu, donc on avait, de toute façon, nous, on avait comme moyen de chauffage qu'une pièce qui était chauffée, la cuisine. Donc c'était dans une grosse cuisinière, on faisait cuire le repas sur la cuisinière. C'était notre moyen de chauffage. On n'avait pas de gaz, on n'avait rien du tout. Je parle de ça jusqu'à tant que je crois qu'on a eu une machine à laver, j'avais peut-être 12 ans. Cette lessive-là, c'était quelque chose, moi ça me fascinait de voir. Alors ça bouillait. Et ça, des fois, ça s'échappait un peu. Alors, il fallait essuyer sur le gaz, je dis le gaz parce que ça m'est resté le gaz, mais en fait, c'était sur le feu. C'était quelque chose de dangereux. Hein. Il ne fallait pas approcher aussi de la lessiveuse, quoi, parce que des fois, ça dégoulinait autour. c'était une épreuve pour les femmes, je trouvais. Enfin, pour moi, ça me semblait vraiment très difficile. Parce que quand on la descendait, maman, elle retirait un peu d'eau, mais pas tout. Hein. Alors, c'était très lourd de la cuisinière à le mettre par terre. Ça me frappait, moi, de voir maman faire ça. Parce que c'était... Alors, des fois, ma sœur, qui était un peu plus grande que moi, l'aidait, mais c'était quand même un gros travail, ça. Elle le sortait de la machine avec un bâton, parce que c'était très brûlant. Il fallait le sortir et le mettre dans une autre bassine pour le rincer. Et ma sœur, justement, ma grande sœur, elle aidait maman. Parce qu'elle avait donc 4 ans de plus que moi. Et elle était chargée de surveiller moi qui faisais des bêtises. Parce que forcément, hein, j'étais un peu plus jeune que mes deux autres sœurs. Et pour les parents, ça devait... Enfin, moi, j'ai tout le temps... Je me suis toujours dit, mais comment elle pouvait faire pour maîtriser 3 gosses, hein, des enfants petits. Et puis, en plus, il y avait des fois des parents, d'autres parents, enfin d'autres mamans, qui venaient avec leurs gamins. Alors évidemment, nous, on n'avait qu'une envie, c'est de s'amuser. Hein. Et alors ensuite, on allait à la Marne, donc toutes les 3 aussi, on était 3 sœurs, pour conduire le linge. On partait de la maison avec la brouette. Et alors la Marne, c'était encore un gros truc, parce qu'il fallait rincer le linge comme il faut. Et pour le rincer... Évidemment, nous, il y avait des endroits où il y avait encore des taches, alors on savonnait ces endroits-là et on échappait les savons. Alors elle prenait, pour éviter d'en perdre beaucoup, elle prenait des morceaux de savon qu'elle nous passait à tour de rôle parce qu'on en perdait. Quoi. Forcément, les gamins, hein, 10, 11 ans, on fait un peu, on ne sait pas faire. Hein. On le faisait sécher sur un grand fil dans le jardin. Et puis parfois, il fallait attendre que le temps soit beau, parce que s'il pleuvait, on pouvait remettre le linge. Alors, il restait dans un endroit, des fois 2 jours. On aimait bien faire... Enfin, mes parents, maman, aimaient bien que le linge sèche à l'air. Alors, il fallait attendre qu'il ne pleuve pas, évidemment. Pour moi, c'est un souvenir important. Le lavage à la main du linge. Quoi.
Le jour de la lessive, on ne faisait rien d'autre. Il
fallait décrasser.
Du matin au soir, c'était la lessive. Hein. La nourriture, même le repas était vite fait. Hein. C'était de la galette, c'était du gros, qu'on appelait ça, de la bouillie de blé noir. Là.
J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, qu'il y a du beurre dedans, qu'il y a du beurre dessus, du beurre dessous, du beurre partout, qu'il y a du beurre dessus, du beurre dessous, du beurre partout.
J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans.
On faisait certainement des galettes le dimanche. Les boîtes de camembert, hein, qui étaient en bois dans le temps.
Ah oui.
Oui, on prenait la moitié de la boîte du fond de la boîte de camembert et puis on faisait un trou et puis ça nous servait à étaler la pâte sur la galettière. Le lundi, par exemple, on mangeait les gros. C'était le restant de la pâte à galette. Je sais, ma mère, elle faisait réduire ça, le restant de pâte dans une casserole, jusqu'à temps que ça soit bien solide. Et après, elle mettait ça dans un plat à refroidir. Et à découper en morceaux, la pâte. Elle faisait revenir ça dans une poêle avec du beurre ou du saindoux, enfin quelque chose de gras, quoi. Et puis ça nous servait un repas. C'était pour on avait une galetière en fonte, une chose très plate, avec une queue. Pour tenir, c'était très très chaud et on mettait une guenille pour pouvoir se brûler les mains, quoi. Mais alors on graissait la galetière avec un morceau de, quand on en avait, un morceau de lard, enfin du gras de lard, mais on n'avait pas toujours un morceau de lard, alors on avait du saindoux, c'était de la graisse fondue. Et avec un morceau de pain, le bout du pain, on piquait avec une fourchette et on mettait ça dans le saindoux, on huilait la, comment, la galettière. Et d'ailleurs, à la fin, de, comment, quand ma mère avait fini ses galettes, c'était un peu la bagarre avec mon frère. Ben c'est très bon, c'est bon, c'est gratiné, c'est même maintenant ça se commence, c'est très bon. Je le fais encore. Le pain est devient tout huileux, tout comment tout marron, marron et puis ben c'est bon.
J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tra la 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 la
tra la 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 la. Ben la mi-tonnée, alors là c'est pour les jours les fins de mois surtout. On mettait comment tous les quignons de pain qui restaient qu'on gardait, on le mettait à tremper avec de l'eau salée quoi ou du lait, mais bon c'était plutôt de l'eau. Et on faisait ma mère elle mettait ça sur le feu et puis le pain devenait tout mou. Enfin c'était moelleux quoi, c'était ça faisait comme de la pâte, mais c'était bon d'ailleurs parce que le pain il devient un peu salé. Bon et puis quand on avait du lait, on mettait un peu de lait dedans, ou on mettait du sucre, enfin. Mais ça remplaçait la soupe, ça remplaçait le. Oui, c'était le repas. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé de le refaire parce que je voulais retrouver le goût de la mitonnée. Ben non, c'est plus du tout la même chose. Hein. On peut pas le faire. C'est pas bon. Les produits ont changé complètement. Hein. C'est pas du tout le. J'ai jamais retrouvé le goût. Les gros, si. Mais la mitonnée, non. Jamais retrouvé ce goût.
Rosé, rosé, rosa. Rosa, rosi, rosa. Rosi, rosi, rosa. Rosa, rosi, rosi, c'est la plus belle chanson du monde que l'on chanta à la ronde. En chantant cette chanson, ça me rappelle mes compagnons. Dès l'âge de 14 ans, certificat d'études, on travaillait. Là, c'était le... C'est-à-dire, on travaillait, moi je travaillais avec mon frère. Il y en a d'autres camarades de classe qui travaillaient avec leur père. Selon le père, s'il travaillait dans la marée, il y en a qui travaillaient dans la maçonnerie et qui prenaient les enfants pour travailler dans le bâtiment. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans et demi. Je travaillais dans les magasins de marée à Boulogne-sur-Mer. Et disons que j'étais ce qu'on appelait à cette époque-là le mousse. Ça veut dire quelqu'un qui démarre dans le travail. Alors, tous les jours au matin... J'avais ce qu'on appelait un père de mousse, un monsieur qui était plus âgé que moi et qui m'apprenait à travailler au fur et à mesure de la journée. J'avais toujours la même personne pour travailler. Et avec ça, j'avais le patron. Lui, c'était le matin, on allait à la halle de Boulogne pour acheter le poisson. Le matin, moi, je commençais à 7 heures. Et lui, le patron, me prenait pour aller à la halle de Boulogne, à la halle des ventes, et je restais toujours à côté de lui pour apprendre comment ça fonctionnait dans la halle. Alors, dans la halle, il y avait des tableaux noirs, et le matin, les crieurs, parce qu'il y avait des crieurs de halle, qui, eux, marquaient ce que le bateau avait pêché. Le hareng, le merlan, le maquereau, je donne des catégories. La morue, qu'on disait nous à Boulogne, le cabillaud. Et chaque tableau avait sa spécificité. Alors après, disons que dans les petits poissons, hein, on appelait ça les petits poissons, le hareng, le maquereau, merlan, qui eux étaient pêchés dans les mers du Nord. Tandis que le gros poisson, eux, on appelait ça le lieu à Utsir. C'était plus haut dans le nord, à l'Antarctique. Et là, ils pêchaient beaucoup de gros poissons. Et de temps en temps, à mes souvenirs, il y avait des bateaux qui arrivaient avec du flétan. Alors le flétan ne faisait pas 5 kilos, 10 kilos, c'était des flétans de 90 kilos. Alors c'était vraiment des grosses pièces qu'on achetait en halle et après on ramenait au magasin. Et moi, mon travail, même que j'étais jeune, c'était de décapiter le flétan, lui couper la queue et après le couper en morceaux. Mais tout ça se faisait au couteau. On n'avait pas de machine, hein, mettons des scies, quoi que ce soit, circulaire, c'était au couteau. La saumonette, c'était le chien de mer. La roussette, c'était vraiment la roussette qu'on écorchait avec... on prenait ce qu'on appelait un cacré. On faisait des incisions dans le corps du poisson pour enlever la peau. Et on enlevait que la peau et on laissait la chair sur l'arête centrale. La mère qui a travaillé, hein, alors vous voyez, je vous parlais de ça il y a ça longtemps, à faire des filets de poissons de hareng, des filets de hareng sort, hein, aux pièces. Ma mère, j'allais la rechercher au soir, le lundi et le mardi, à des 10, 11 heures du soir, 22 heures, 23 heures. Le soir, j'allais la rechercher en voiture. Et comme elle n'était pas toute seule, elle avait d'autres personnes avec elle. Dans la 4 chevaux, j'avais 4 chevaux. Dans la 4 chevaux, j'avais 3 personnes et des bien costauds. Tout est devenu industriel, c'est terminé, ça, ce travail-là, dans ces magasins-là. Les magasins ont disparu. Maintenant, c'est l'usine, quoi. C'est machine beaucoup. Machines qui coupent le poisson, qui le mettent en filet, c'est vraiment devenu très moderne, quoi. Et encore des femmes qui travaillent à la main, le filet, les ressorts à la main. Parce que, autant dire, c'est plus propre et mieux conditionné, hein, que de le mettre en... pas en vrac, mais disons que ça soit des machines qui le font, quoi. Parce qu'après, ça devient des machines robots et croyez-moi, ce n'est pas la même qualité. Parce que lui, le robot, il ne sait pas si c'est frais ou pas frais. Hein. Tandis que les femmes, dès qu'ils voyaient qu'il y avait on appelait ça des baskets, hein, ça faisait un genre de panier en osier. Dès qu'elles voyaient que le hareng n'était pas frais, elle appelait la contredame, elle montra à la contredame que son poisson n'était pas frais et automatiquement, cette basket-là était... mis en rebut et parti après, on appelait ça en déchet. Et on était payé à l'heure. On commençait à 7 heures le matin et on finissait des fois à 11 heures, minuit, le lundi et le mardi. En moyenne, c'était 55 à 65 et 70 heures. Le lundi, le mardi et le mercredi, c'était les 3 jours les plus forts. C'était déjà des anciens francs, hein. C'était 5500 francs par semaine. Et quand je faisais beaucoup d'heures, les heures n'étaient pas comptabilisées dans notre paye. Le patron payait, on appelait ça du main à main. Et les ouvriers gagnaient entre 12 et 15 000 francs, selon le nombre d'heures que l'on faisait. Il existe encore aujourd'hui dans les magasins de marais, mais plus dans les mêmes conditions. Maintenant, c'est... Le poisson arrive de Hollande, arrive d'Allemagne, arrive même du Portugal, de l'Espagne, par camion.
La soupe à la pie, vous connaissez ça?
Oui.
La soupe à la pie, c'est avec du vin rouge et du pain qui est comment trempé dedans. Du vin rouge sucré, on mangeait ça l'été.
On mettait le pain trempé dans l'eau chaude. Dans l'eau bouillante. Et on laissait ça refroidir tout l'après-midi ou n'importe quand. Et au moment de servir...
Oui, là, c'est ça.
Au moment de servir, on mettait du vin, un peu de vin rouge. Et un verre environ.
Et ça s'appelle la soupe à la pie.
Oui. Et tout le monde mangeait ça. Les enfants, on ne regardait pas s'il y avait de l'alcool dedans ou pas. Et tout le monde mangeait ça. C'était bon.
Ah, oh, mais c'est bon.
Tout frais. Ah, ben oui, c'était
l'été,
bien frais.
L'été, c'est bon.
C'était l'été qu'on mangeait ça, oui.
L'histoire du battage du blé
en août 1943. Alors, ça se passait au mois d'août. Alors, on attendait la machine, évidemment, avec impatience, parce que c'était, pour nous, c'était un grand jour. Et on la voyait arriver tout au bout du chemin. Elle était suivie par tous les travailleurs qui allaient travailler au valetage. Et quand elle arrivait, les deux mécaniciens calaient bien leur machine. Les travailleurs se mettaient en place pour accomplir le travail qu'il y avait à faire. Alors, les premiers montaient sur le gerbier et distribuaient les gerbes à un autre qui était placé auprès de la machine. Alors, celui-ci les passait à un autre qui était placé sur la machine. Et là, celui-là, il défaisait le lien qui en serrait la gerbe. Ensuite, il le passait à celui qui était à la gueule de la machine, si vous voulez. Il posait la gerbe dans ce trou. Il ne fallait pas qu'il plonge la main trop, sinon il aurait le bras arraché. C'est arrivé. Ah, c'est arrivé, même c'est à quoi on s'est arrivé. Parce que mon mari était parti pour rendre service à quelqu'un, certainement, parce qu'on n'avait pas ça, nous. Mais il était parti battre à la machine, et il était sur la machine, à l'endroit où il passait la gerbe à celui qui l'engouffrait. Et ce monsieur-là, il s'est fait arracher le bras. Et mon mari l'a retiré. Il paraît qu'il aurait pu passer complètement dans la machine. Mais quand mon mari est arrivé, il n'était pas blanc, il était vert. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Il ne pouvait même pas raconter tellement ça l'avait choqué. C'est pas rien, hein. Ça continuait comme ça, jusqu'à l'épuisement du gerbier. Et la machine faisait tout le travail. Elle rendait le blé à l'autre bout de la machine. Et à un autre endroit, la paille sortait, l'enveloppe des grains tombait encore à un autre endroit. Donc celui qui recevait la paille, qui constituait le paillé, ce qu'on appelait le paillé, et d'autres récoltaient le blé qui sortait à un autre endroit de la machine, mais mettaient un sac là où sortait le blé. Quand le sac était plein, d'autres chargeaient le sac sur le dos des jeunes costauds, parce qu'il fallait être costaud pour porter le sac, parce qu'ils le portaient au grenier. Ils vidaient le sac. Ce blé-là, il allait servir après pour emmener chez le meunier et pour faire la farine. Et ça servait à faire le pain. À ce moment-là, c'était la guerre. Le pain se faisait dans le four de la ferme. Enfin, c'était les cultivateurs qui faisaient leur pain eux-mêmes. Bon, bah, tout ça se faisait dans un grand silence parce qu'il y avait un tel bruit qu'on ne pouvait pas s'entendre parler. Alors nous, les jeunes, on profitait de ces accalmies pour donner à boire, aller rafraîchir les gosiers secs. Je dirais bien quand même au moins 20 personnes, hein. De 20 à 30. Hein. Ah oui, ça faisait beaucoup. Hein. Il fallait prévoir des bouteilles de vin, des bouteilles d'eau, des bouteilles de café. C'était suivant les goûts, chacun prenait ce qu'il voulait. Il pouvait avoir deux arrêts pendant le... Ça dépendait le combien de temps durait le battage du blé. Et quelquefois, il y avait deux arrêts, quelquefois, il n'y en avait qu'un. Et bon, alors tout ça se faisait en silence. Et quand tout était terminé, ça changeait d'ambiance, parce qu'on pouvait parler. Alors tout le monde en profitait pour parler. Et les gens, après, on avait aménagé une grange pour préparer le repas. Parce que dans toutes les fermes, il y avait le repas après le travail. Quelquefois, ça faisait beaucoup. Mais quelquefois, ça dépendait, parce que quelquefois, ça durait des heures et des heures, le battage. On installait les gens dans une grange, sur des tables qu'on avait aménagées, avec des nappes blanches ou des draps blancs, s'il n'y avait pas assez de nappes. Et les gens prenaient place autour des tables. Et nous, les femmes, on leur portait à manger. Alors, chaque ferme essayait de faire bien, parce qu'après, on avait la réputation de... Les hommes disaient, à tel endroit, on a bien mangé, on n'a pas bien mangé. Alors, on faisait de notre mieux. Je me rappelle qu'on faisait souvent des blanquettes de veau, on faisait des poulets rôtis, des choses comme ça. Après, c'était du fromage, Et puis, à boire à volonté, évidemment. Et puis après le café, le pousse-café. Puis après, quand tout était terminé, ils repartaient tous, les uns après les autres sûrement, pour aller dans une ferme, pour à nouveau re-suivre la machine, pour atterrir, pour arriver dans une autre ferme. Avec ces copeaux de blé, certaines personnes faisaient des petites... ils appelaient ça des balines, c'était des espèces de petits matelas qu'ils mettaient dans les lits d'enfants. Ça servait de petits matelas, si
oui,
vous
oui,
voulez.
Oui.
Et la paille servait dans l'hiver pour faire la litière aux vaches, hein, c'est ça. Hein. Tout servait.
C'était fatigant, d'accord. Mais comme on était jeunes, on ne sentait pas la fatigue. La fatigue, elle se faisait en fin de semaine. Le samedi, j'allais danser. On allait danser dans les bals et après, on a fabriqué des surbooms. Vous avez déjà entendu parler des surbooms. On louait une salle dans un café qui était au-dessus du... La salle était au-dessus du café et on faisait des surbooms dans le café. Et le café était... Il y avait en bas qui continuait, mais en haut, la salle, c'était pour nous. On avait un tourne-disque. On avait les disques, disques de Claude François, de tout ce qui était moderne, Johnny Hallyday, tout ça. Et on dansait... avec les disques. C'était beaucoup de chansons. En slow, c'était beaucoup des chansons d'Adamo. Tombe la neige. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, il fait bon, mon cœur est peur de désespoir. Ce joyeux cortège, tout en âme blanche, l'oiseau sur la branche, triste sortilège,
pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir.
Ou alors Johnny Hallyday. Alors là, c'était Killy Watch, c'était des twists.
Killy Watch, Killy Watch, Killy Watch,
Killy, Killy, Killy Watch, Watch, Watch. Depuis ce jour, je ne fais que répéter ce gentil mot qui commence à m'énerver.
Killy, 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 Killy Watch, 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 Watch,
il y avait autant de garçons qu'il y avait de filles et on dansait pendant toute l'après-midi. Quand c'était le soir, c'était le samedi soir, je vais vous dire le nom du bal, c'était le bal de l'Alhambra à Le Portel, juste à côté de Boulogne. Et là, on allait là et là, c'était vraiment de la danse. Là, on faisait aussi bien tango, valse, twist, toutes les danses qui étaient possibles. Madison. Moi, le Madison, j'étais le meneur. Vous voyez, je vais vous faire. Ta 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 à pied, soit qu'on montait un bal en autobus pour aller danser au bal. Dans la nuit, on redescendait tout en chantant à pied. Parce que là, il n'y avait plus de bus.
À Saint-Jean, aux Musettes, quand il m'a suffi d'un baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par ses bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
Une réalisation pensée et menée de février à avril 2018 par Julie Ozou du Sonolab de l'association JET et Cyril Évrard du service coordination personnes âgées de la ville de Couëron.
sans plus réfléchir.
Avec les souvenirs, la voix et les bruitages de
Nicole,
Jeannette,
Francis,
Josiane,
Thérèse,
Rosa.
Montage, Julie Ozou. Une action soutenue par la conférence des cofinanceurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées du Conseil départemental de Loire-Atlantique et de Nantes Métropole, et également soutenue par le Centre communal d'action sociale de Couëron.
Le plus beau de Saint-Jean, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais alors, à Saint-Jean, comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par ses bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Comment le
pape... Ah bah, c'est fini.
Souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. C'est l'image d'un rêve, une heure en vrai, qui ne veut pas finir.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.